Wilfried Galland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du conseil en investissement chez Neuflize OBC. On va parler avec vous des marchés et des perspectives sur ces marchés. Commençons peut-être par l'Europe, hein, avec ce qui s'est passé avec le quantitative easing, la décision de la Banque centrale européenne. Quel a été votre regard? On a vu globalement, les marchés ont plutôt apprécié ce qui s'est passé. Est-ce que ça conforte un peu les investisseurs sur l'Europe?
Je pense qu'on est vraiment dans ce scénario qu'on avait décrit au début d'année, où on avait des banques centrales à la manœuvre. On est vraiment dans ce scénario-là. Et effectivement, en Europe, on a un avant et un après 22 janvier. Avant le 22 janvier, on se posait tous des questions sur l'ampleur du mouvement de la Banque centrale européenne. On était tous à peu près convaincus qu'on allait probablement être déçus au fur et à mesure des nouvelles qui suintaient. Et finalement, on a tous été agréablement surpris. Donc les marchés ont enchaîné et ont vu l'essentiel des bonnes nouvelles. Et donc, ont poursuivi leur progression et l'ont même accéléré. C'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment un très très bon début d'année.
Donc on a effectivement ces banques centrales. En même temps, on pourrait dire que si on prend la zone euro, si on reste dans cette zone euro, il y a toujours une problématique de croissance qui n'a pas changé, problématique de dette.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que les banques centrales, fondamentalement, nous donnent du temps. Donnent du temps aux États, donnent du temps aux entreprises. Et fondamentalement, les problématiques restent les mêmes. Néanmoins, les fondamentaux ne sont pas des fondamentaux qui sont mauvais. On a souvent tendance à croire que finalement, on monte dans le vide. Alors déjà, on a des volumes, donc c'est ce qui est le signe qu'il y a de vrais acheteurs. Et d'autre part, on est quand même dans une situation où fondamentalement, on a ces nouvelles qui sont finalement de bonnes nouvelles, nouvelles d'entreprises, nouvelles économiques. On a une accélération de la croissance européenne qui reste modeste, qui reste même médiocre, mais qui est réelle. On n'est pas sur des niveaux de valorisation de marché totalement stratosphérique, on est légèrement au-dessus, c'est vrai, des moyennes historiques, mais globalement, en fait, on voit plutôt le côté positif des choses, on est dans l'optimisme, c'est un petit peu ce qui tire les marchés aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus complètement un phénomène de bulle irréaliste.
De l'autre côté de l'Atlantique, on a un scénario différent. On avait un consensus, hein, global des investisseurs sur mi-2015 pour la hausse des taux aux États-Unis. En ce moment, ça varie un peu. Il y a des discussions. Comment vous voyez-vous ce qui se passe aux États-Unis?
Aux États-Unis, on est un petit peu dans une situation qui est un petit peu la contraposée de l'Europe. C'est-à-dire, on est dans une situation où là, la croissance est bonne, le marché de l'emploi visiblement repart, et effectivement, on s'attend à une hausse des taux. Vous l'avez très bien décrit, le débat, c'est quand est-ce que cette hausse des taux aura lieu? Moi, j'ai noté, il y avait récemment une interview de John Williams, qui est donc l'ancien conseiller de Janet Yellen au moment où elle était à la fête de San Francisco, qui dit il est quand même temps aujourd'hui de regarder à une normalisation de la politique monétaire. Donc il est probable qu'on s'en rapproche de plus en plus, et mi-2015, aujourd'hui, fait à peu près consensus. La vraie question, c'est quel sera le rythme et quelle sera l'ampleur de cette hausse? Est-ce qu'il y aura un impact sur l'économie américaine et surtout, est-ce qu'il y aura un impact sur les autres économies?
Ce qui a pu évoluer, enfin, ce qui a pu faire changer peut-être ou un petit peu susciter des interrogations, c'est tout ce qui s'est passé sur le pétrole avec cette chute du pétrole de fin d'année dernière et l'appréciation du dollar. C'est ces deux facteurs-là qui ont
On
un
est,
petit
on
peu
est,
mis debout du brouillard quelque
on
part.
a, on, on a, on a trois facteurs en fait. On a le dollar, on a le pétrole, on a les taux d'intérêt. Ce sont les trois grands facteurs qui ont fait bouger les marchés, à la fois les marchés actions et les marchés de taux. Le pétrole a clairement redonné du pouvoir d'achat. Donc on a le moteur de la consommation, aux États-Unis en particulier, qui a vraiment redémarré. On le sent redémarrer en Europe. On a vu par exemple les ventes de voitures, hein, qui ont clairement redémarré. On a aussi de la part des exportateurs un effet dollar qui est réel. Après, cet effet dollar, il peut être divers. Le dollar, ce n'est pas que la monnaie des États-Unis. On disait le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Une célèbre formule. C'est aussi la monnaie de l'ensemble du monde. Donc il va y avoir des effets un petit peu collatéraux. Donc tout n'est pas rose. Mais c'est vrai que ça redonne un peu d'élan. Ça redonne surtout de l'élan au marché européen. Et la partie exportateur du marché européen, on l'a vu avec récemment les résultats de Renault, de Peugeot par exemple.
Donc quelque part, là, il n'y a pas trop de doute sur cette année 2015, sur effectivement cette montée des taux. Il y a
À court
peut-être un
terme,
peu
c'est
sur le
vrai.
calendrier.
Je pense qu'à court terme, on est effectivement sur un scénario qu'on maîtrise à peu près. Le vrai risque aujourd'hui, c'est un risque politique, hein, c'est un risque autour de la Grèce, voire encore un risque autour de l'Ukraine. On a vraiment ces nuées qui sont là, donc il ne faut pas les nier, il faut arriver à regarder au travers, mais il ne faut pas, surtout pas les balayer d'un revers de main. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, on est effectivement sur un scénario qui nous conforte dans l'optimisme mesuré et prudent dont on fait preuve depuis le début d'année.
Oui, ce qu'on pouvait dire que sur l'Ukraine, il y a quelques mois de cela encore, hein, les investisseurs l'avaient totalement ignoré, et puis il y a eu l'impact sur l'Allemagne, sur la conjoncture en Allemagne qui a été significatif. On a l'impression que c'est un peu la même chose sur la Grèce, où finalement ça ne se passe pas trop mal. Est-ce que c'est lié finalement à ces liquidités qui sont apportées par les banques centrales qui font que ça, les investisseurs restent confiants malgré tout, on pourrait dire, même s'il y avait la Grèce sortait de l'euro par exemple?
Oui, je pense qu'on est dans cette situation un peu cotonneuse où les marchés se laissent entraîner par cet afflux de liquidités. Néanmoins, il faut jamais oublier qu'on a souvent tendance à sous-évaluer dès l'origine les chocs d'une surprise. Et malgré tout, on reste optimiste. Pourquoi ? Parce que l'Europe a prouvé dans ces différentes crises, d'une part, que les délais qu'elle s'imposait n'étaient souvent pas des portes d'airain qui se refermaient comme ça dans un bruit de cataclysme, mais qui pouvaient probablement être repoussées beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc il est probable que le fameux délai dont on parle de fin de semaine pourra probablement être repoussé un petit peu, d'une part, et d'autre part, que les scénarios, les solutions, qui sont très tranchées, qui sont blancs, noirs, il y a probablement aussi des scénarios gris qui sont à l'étude, on commence à voir des papiers apparaître là-dessus, qui vont nous permettre au minimum, là une fois de plus, de gagner du temps et d'être dans une situation qui nous permet de résoudre les vrais problèmes, qui sont des problèmes politiques et économiques européens.
Alors, s'il y a des pays où on se pose des questions, c'est sans doute sur les pays émergents aussi, avec cette croissance un peu ralentie, avec certains pays comme le Brésil, où il y a eu des vrais accidents économiques, la Chine qui est en dessous de sa croissance habituelle. Comment vous abordez, vous, cet univers émergent ?
L'univers émergent, il est aujourd'hui extrêmement divers, extrêmement varié. Déjà parce qu'on a des situations avec des pays qui sont à des cycles économiques totalement différents. On a aussi des situations, vous en parliez tout à l'heure, avec le pétrole, des situations avec des pays importateurs et des pays exportateurs. À l'intérieur même d'une zone, si vous prenez par exemple la zone Asie, vous avez la Malaisie qui est exportatrice nette de pétrole et vous avez la Chine qui est importatrice nette de pétrole. Et effectivement, l'impact sur la croissance de cette chute extrêmement brutale des prix de l'énergie n'est évidemment pas le même. On reste positif globalement sur la zone Asie, même si, je l'ai mentionné, il y a des pays sur lesquels il faut quand même faire attention. Mais globalement, la locomotive chinoise reste une économie extrêmement puissante, même si elle est en train de changer de modèle. Donc ça induit de la volatilité, ça induit des incertitudes financières en particulier. On est beaucoup plus prudent sur le volet Amérique latine, et évidemment sur la partie Russie, qui avec ce qui se passe en Ukraine, plus la chute des matières premières, est vraiment dans une situation délicate.
Le mot de la fin, comment évoluent les portefeuilles globalement? On sent bien cette faveur des actions, mais est-ce qu'il faut être prudent tout de même?
De toute façon, la faveur des actions, elle est, je dirais, malheureusement ou heureusement, en tout cas obligatoire, puisque les taux d'intérêt sont tellement bas que c'est le seul actif sur lequel on peut retrouver du rendement. Donc oui, oui aux actions, une certaine prudence. Nous, on reste légèrement surpondéré sur la partie actions, plutôt sur la partie européenne. Néanmoins, il faut garder des obligations dans les portefeuilles, voire même du cash, ça permet de gérer la volatilité. Et cette année, ne nous y trompons pas, restera volatile.
Merci Wilfried Galland d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci beaucoup.